שלום, שלום וברכה, בשורות טובות, ישועות ונחמות. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Vous m'entendez bien, vous me voyez?
C'est super, on vous entend très bien, on vous voit très bien.
Yofi, alors toda rabba à Rabbi Yaakov pour cette aide qu'il nous donne à partager ces shiurim de Yeshiva Online et de tout notre groupe. Et je vous remercie, vous, les spectateurs de nos shiurim. Be'ezrat Hashem, j'espère que ces shiurim vous apportent, comme nous, nous sommes heureux de les partager. Nous étions au stade de la création du monde, en fait, ce qui a précédé la création du monde. Et nous devions comprendre comment le monde dans lequel nous sommes est apparu. Je répète succinctement, c'est qu'avant l'apparition de notre monde, qui est un monde déjà de réparation, il y a eu des mondes de dégradation. C'est-à-dire que cette dégradation était voulue afin de nous donner la place à nous, les créatures, une place qui nous permettra de contribuer à la perfection de ce monde. Nous sommes dans un processus de perfectibilité, c'est-à-dire un processus qui nous pousse petit à petit à clôturer l'histoire humaine, qui n'est ni plus ni moins que l'histoire de Dieu lui-même, et qui s'habille en réalité dans l'histoire humaine. Pour ce faire, il fallait qu'on soit dans un monde où le choix de nos actes, de nos pensées, de nos actions, que ce choix existe. Et pour que ce choix existe, il fallait en réalité créer une certaine perturbation, parce que tout vient de l'infini, béni soit-il, et si tout restait au niveau de l'infini, il n'y aurait jamais eu autre chose que lui. Le fait de créer un monde dans lequel il y a, entre guillemets, autre chose, ben cela veut dire que cette autre chose doit avoir une liberté pour pouvoir réagir, pour pouvoir accepter ou refuser ce degré de l'infini qu'il a créé. Il y a donc ici une création volontaire d'un manque, et ce manque, nous l'avons défini comme le monde qui a précédé le monde de la réparation qu'on appelle Atzilut. Ce monde donc s'appelle Olam HaNekudim. Vous vous rappelez que ce monde est le monde des points, et dans ce monde-là, les points ne se respectaient pas. C'est-à-dire que, imaginez-vous une existence où chacun des éléments pense qu'il est seul, qu'il n'y a rien d'autre que lui. Une sorte d'ego gonflé à bloc qui ne laisse pas l'existence à autrui. Dans cette condition-là, le monde ne peut pas exister. Et donc, il y a ce qu'on appelle explosion. Le terme habituel de nos sages dans la Kabbalah, c'est Shvirat HaKelim, la brisure des vases. Les Kelim sont des ustensiles qui, justement, parce que ces ustensiles ne comprenaient pas la position nécessaire pour recevoir les grandes lumières, à savoir que pour recevoir une grande lumière, je dois être quelqu'un qui donne. Je dois être quelqu'un qui reçoit. Et donc, ce n'est pas seulement au niveau de ce que nous étudions. Je traduis maintenant ces valeurs dans notre vie à nous, de tous les jours. Si vous voulez recevoir des grandes lumières, des grandes valeurs, une Torah profonde, quelque chose qui est au-delà du premier niveau du texte de la Torah, il faut développer dans votre être des qualités nécessaires et qui sont obligatoires pour pouvoir contenir ces grandes lumières sans se briser. Pour contenir la grande lumière divine, il faut être quelqu'un qui d'abord connaît sa position de receveur. Autrement dit, je suis une créature et je suis donc d'abord, par ma nature, de par ma naissance, de par ma création, je suis quelqu'un qui a été créé, donc je ne suis pas le créateur, et donc je subis, et donc je reçois. Première réception, c'est la vie. Autrement dit, je ne peux pas vivre si cet infini ne me fait pas vivre à chaque instant. Donc je vis de son être. Eh bien, le fait de reconnaître que je ne peux pas vivre si ce n'est que de son être infini, bien, le fait de reconnaître cela me permet déjà d'accéder à une lumière supérieure, parce que je me mets en position de receveur, de réceptacle. Alors que si j'ai l'impression de m'être fait moi-même, de m'être créé moi-même, comme dit le pharaon, comprenez bien que c'est une image, c'est des personnes qui ressemblent au pharaon qui disent « Li yehori ve'ani asitini ». Le Nil m'appartient et c'est moi qui me suis fait tout seul. Alors, oubliez le roi d'Égypte, le pharaon. En réalité, c'est un élément qui peut se réveiller, chas v'shalom, à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire une méconnaissance des choses, une mécompréhension des choses, une incompréhension des choses, et qui, chas v'shalom, me porte à croire que je me suis fait moi-même, que je n'ai besoin de personne et que je n'ai à recevoir de personne ni des remarques, ni des explications, ni des leçons, ni quoi que ce soit. Je suis le maître. Dans la traduction hébraïque, chaque point de ce monde où il y a eu la brisure, eh bien, se comportait de cette manière-là et il disait « Ana emloch ». C'est moi, le roi. Personne est au-dessus de moi. Moralité, vous comprenez bien que lorsque l'ustensile est de cette catégorie-là, eh bien, la lumière de l'infini ne peut pas le traverser. Car en le traversant, elle le brise. Tout simplement parce qu'il n'est pas fabriqué de la façon nécessaire et suffisante pour que cette lumière passe par lui sans le briser, sans l'éclater. Et donc, il fallait créer un nouveau stade, une nouvelle étape dans laquelle les mêmes points qui n'avaient pas compris qu'ils étaient interdépendants les uns des autres, eh bien, le comprennent maintenant. Donc, il fallait une étape de brisure pour que cette brisure reste comme une trace à l'intérieur de chacun de nous, c'est-à-dire que la destruction première, avant même la création du monde, c'était une forme d'égoïsme.
Arav, je crois qu'on entend un tout petit bip derrière vous. Je ne sais pas si ça vient de chez vous.
Qu'est-ce que vous entendez ?
Un petit bruit, un bip comme ça.
Un bip, c'est pas chez moi.
Non.
Non. Okay. Je n'ai pas de bip. D'accord ?
Quelqu'un est ouvert.
Alors, ce que je vous dis ici, peut-être que je vais baisser un tout petit peu le micro, peut-être qu'il est trop fort. J'ai l'impression que peut-être le micro. Vous allez me dire si vous m'entendez mieux.
On vous entend très bien, Rav.
Là, c'est mieux.
Non.
Ça va pas, là ?
Non, non, vous êtes éloigné.
Je n'ai pas le micro, non, mais...
Et là, ça va mieux ?
C'était mieux.
Alors... C'était mieux avant.
C'était mieux avant. Alors, je déconnecte. Et là, c'est mieux ? Ça va mieux, là ?
C'est...
Là, ça va mieux ?
Oui.
OK. Alors, on continue. Alors, je reprends maintenant dans le texte. C'était en réalité un préambule. Vous voyez ce degré de Anna Emloch ici. Donc chaque point considérait qu'il était une existence à part entière et qu'il n'avait pas besoin d'autrui. Donc je réexplique. Kol nekuda eina roa veina mitiacheset ela leatzma bilvad. Chaque point ne considérait pas l'existence de l'autre, mais ne se voyait que lui-même. Comme si ce point était déjà complet, parfait. Donc il n'y a pas besoin de lien entre ce point et le reste des points. Bien entendu, Zometziout, c'est une existence shel chorban, de destruction. Et d'ailleurs, toutes les destructions, quelles qu'elles soient, commencent par ce genre de phénomène. Je ne regarde pas l'autre, je ne regarde que moi. C'est-à-dire, mon intérêt passe avant l'intérêt collectif de l'équilibre. Et on appelle cela shvira, donc une brisure. Keivan she'en ba'olam kaze, ken lo hashpa'a echad l'asheni, velo kabbalah echad min l'asheni. Donc, il n'y a dans un monde comme ceci, comme celui-ci, ni partage, ni capacité de recevoir. Chacun pour soi. Matzav ze shalal mikol nekuda et ha'yecholet le'achil et or Hashem. Tant donné que la lumière divine est d'une autre catégorie complètement, eh bien, cette situation ne pouvait pas contenir la lumière divine. Qu'est-ce que c'est que cette lumière divine? Ce n'est pas une lumière électrique. Et ha'ratzon ha'elyon, la volonté divine. Donc, la volonté divine ne pouvait pas traverser ces Kelim sans les briser. Mais elle les a traversés quand même. Parce que la lumière divine, il n'y a rien qui l'arrête. Le problème, c'est que c'est toi qui te brises lorsque cette lumière te traverse, ou bien tu restes et tu t'amplifies au niveau de ta santé lorsque tes Kelim sont adéquats. Vous comprenez que la lumière divine, elle continue de circuler, mais elle fait des dégâts sur son passage, ou bien, au contraire, elle bonifie ceux par qui elle passe. La raison de cette brisure, donc, on ne peut pas dévoiler une lumière sans essayer en bas d'atteindre la même nuance que cette lumière. Or, nous avons affaire ici à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de partager. Dans ce monde ici-bas, si tu ne partages pas toi-même, si tu ne développes pas toi-même cette qualité de partage dans ton être, tu ne pourras pas recevoir la lumière divine. C'est très simple, très facile. Donc, les égoïstes dans ce monde ne peuvent pas recevoir la lumière de Dieu. Et Dieu le dit lui-même, quelqu'un qui est Gaaftan, Gaava, le mot Gaava d'ailleurs, si vous le prenez, je vous l'écris ici, en direct, vous voyez qu'il a Gimel, c'est 3, Aleph, c'est 1, donc ça fait déjà 4, 4 plus 6, Vav, ça fait 10, plus 5, 15. C'est-à-dire que la Gaava, c'est les mêmes lettres que les deux premières lettres du nom d'Hachem, le Yud et le Hé, qui sont en valeur numérique 15. Autrement dit, si tu es quelqu'un d'orgueilleux, dont la valeur numérique est 15, eh bien, les deux premières lettres du nom de Dieu qui représentent les lumières ne peuvent pas te traverser. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, « En ani ve'hu » Lui et moi, on n'habitera jamais dans le même monde. C'est ou lui ou moi. Et donc l'orgueilleux se voit retiré de la lumière de Dieu qui le fait vivre et il se meurt tranquillement. Il s'éteint. D'ailleurs, il reste seul. L'orgueilleux finit toujours seul parce que justement, les gens s'éloignent de lui. Et c'est aussi une image de l'éloignement de la lumière divine de lui-même. Donc tout ça a conduit à la brisure. On appelle ce monde le monde du Tohu. Et la conduite de Dieu était sous le signe de la rigueur. C'est-à-dire, il n'y avait pas de lien entre les sphères elles-mêmes et chaque sphère était à part entière. Donc, je répète et je résume, cette manière de se tenir a empêché tout simplement les mochin, les grandes lumières, la chokhma et la bina, de se diffuser dans les mesures, dans ces kelim qui étaient en réalité, qui sont toujours des mesures. Étant donné que tu es démesuré dans tes mesures, eh bien la lumière divine ne peut pas te traverser. La lumière divine a besoin de se réaliser là où il y a des mesures, là où il y a des midot. S'il n'y a pas de midot, pas de dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire pas de dévoilement ? Un dévoilement, bien entendu, tellement grand qu'il brise tout, qu'il casse tout. Parce que les midot, les mesures ne sont pas à la hauteur de la lumière qui les traverse. C'est très simple à comprendre. Et donc, tout ceci est englobé dans ce qu'on appelle Shem Ben. Shem Ben, c'est un degré féminin qui, en réalité, est le dernier degré, qui est la Malchut, qui est la royauté de Dieu, dans laquelle tout doit se révéler. Autrement dit, la royauté de Dieu, c'est l'ustensile général, c'est le cli général dans lequel la lumière d'Akadosh Baruch Hu se dévoile. On l'appelle ça Shem Ben, parce que si vous prenez les... c'est pas le garçon, hein, Ben. C'est Bet et Nun, c'est-à-dire 52. Qu'est-ce que c'est 52? Bien, c'est la réflexion, le miroir, du nom de Dieu qui est en valeur numérique 26. Donc 26 et 26, 52. Donc le Shem Ben, qui représente la Malchut, c'est le chiffre 52, c'est-à-dire celui qui est responsable de révéler la lumière de Yudke Vavke 26, dans son miroir, lui aussi doit être 26. Donc normalement, tu dois voir 26 en haut, 26 en bas. 26 et 26, 52. Donc le chiffre 52 est un chiffre secret dans la Kabbalah qui représente que tu es complètement fidèle à la lumière initiale. Tu n'as rien rajouté. Le tétragramme du début se révèle en toi. J'espère que les choses sont claires. C'est tout simplement une réflexion de Yudke Vavke, un reflet. Et dans ce degré-là, se dévoile en réalité toute la lumière divine. Alors, nous avons déjà amorcé un texte du Rav Kook dans Orot HaKodesh qui parlait de cette unité et de son inverse. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'unité des valeurs, d'un autre côté, il y a la dispersion des valeurs, l'explosion des valeurs. Les deux sont nécessaires.
Excusez-moi, je peux vous poser une question?
Oui.
Par rapport à la gématria, est-ce que le 39 plus le 13 des Rad ou de Ava et le 39 à Shabbat, ça fait 52 aussi?
La même chose, c'est-à-dire que lorsqu'il y a 39, c'est qu'il manque en réalité la dernière lettre. Si vous écrivez Yud, He et Vav en remplissage, vous arrivez à 39. Il vous manque donc l'unité retrouvée à la fin pour arriver ou bien à 45 ou bien à 52. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais en réalité, il vous manque l'unité. Donc, vous avez raison, il y a une unité de départ qui doit se retrouver à la fin. Mais nous sommes dans un monde fractal. Nous sommes dans un monde où la dispersion existe. Pourquoi? Parce que notre monde, sa nature, c'est le pluriel. Étant donné que sa nature, c'est le pluriel, eh bien, il y a déjà par nature deux manières de voir une seule et même vérité. Qui dit deux, dit trois, quatre, des milliers, des millions. Et donc, nous sommes dans un monde compliqué, complexe, où l'unité première ne peut pas se révéler par moi tout seul. Elle est obligée de prendre en compte mon ami. Et donc, lui, moi, elle, nous, tous, nous formons un ustensile avec un respect entre nous que les nuances de l'unité divine, elles passent par toi différemment qu'elles ne passent par moi. Et donc, je dois respecter ton existence puisque toi aussi, tu es un révélateur de cette unité divine par ton prisme à toi, par ta couleur à toi. Et moi, par ma couleur à moi, par mon prisme à moi. Et donc, il y a ici, à partir de cette multiplicité de détails, il y a la nécessité de retrouver l'unité. Moralité, je suis obligé d'étudier la Torah avec quelqu'un d'autre pour justement entendre un autre son de cloche. Car en réalité, si je ne m'écoute qu'à moi-même, eh bien mon système, étant donné qu'il est formaté pour travailler de telle et telle manière, je suis dans le sens que moi, je comprends les choses. Mais toi, tu as un autre sens. Et si je ne suis que, pour rappeler, dans l'un des sens, eh bien, je suis dans l'un des sens. Je suis obligé de te prendre en compte. Je suis obligé de savoir comment toi tu appréhendes la même vérité. Et l'ensemble de tous ces éléments qui reçoivent la même volonté de départ, c'est ce qu'on appelle le shalom. Donc au départ, il y a l'unité qui se dévoile dans la dispersion, et dans cette dispersion, nous sommes censés retrouver le rassemblement. Shalom, ici, n'est pas la paix, mais hashlama. Je te complète et tu me complètes. Et dans ce shalom-là, eh bien, on peut retrouver Akadosh Baruch Hu. On peut retrouver sa volonté. Et donc, il y a ici quelque chose de très important à comprendre. Et là, je fais un résumé de tout ce texte du Rav Kook. Emunat ha'achduta Elohit, hiya neshama. Donc, cette émouna que nous devons acheminer ici-bas de l'unicité divine, en réalité, il s'agit là de l'âme de toute la création, Hanoset bekirba et kol otzar ha'chaim, qui contient tous les secrets et les trésors de la vie, et kol ha'rechush ha'pnimi she'osher ha'olamim atzur bo. Toute la bonté, toute la complexité, l'unité par excellence absolue dont le monde ici-bas a besoin.
Ah.
Okay.
On peut dire que shalom, c'est shalom, c'est la perfection. Il y a toutes les ensembles, tous les.
Shalom, c'est la shlemut. Talmidei chachamim marbim shalom baolam. Ça ne veut pas dire que tous les talmidei chachamim sont d'accord entre eux. C'est bien le contraire. C'est exactement le contraire. Parce que je ne suis pas d'accord avec toi, eh bien, je me complète par toi et tu te complètes par moi.
Donc, ça veut dire que dans ce sens-là, shalom, ce n'est pas dans le sens français une bonne entente.
C'est l'harmonie. Exactement. C'est une guerre de Torah nécessaire. C'est-à-dire, moi, j'ai ma façon de voir et je dois me battre pour la dévoiler. Toi, tu as ta façon de voir et tu dois te battre pour la dévoiler. Et moi, je me complète par toi. Et toi, tu te complètes par moi. Mais tu dois accepter que je suis légitime et moi, je dois accepter que toi aussi, tu es légitime. Même si je suis contre tes idées. et je vais me battre pour les miennes. Mais je sais que tu fais partie de ceux qui dévoilent Dieu dans ce monde, même si ça m'énerve la façon dont tu le fais. Et donc, c'est comme ça que les Chachamim sont toujours en discussion. Et ceux qui le regardent de l'extérieur, ils se disent, mais ils ne sont jamais d'accord entre eux. Baruch HaShem. Ils ne doivent pas être d'accord entre eux. Ils doivent tout simplement se compléter. Parce que je ne peux pas, moi, tout seul, recevoir la totalité de la lumière. Ce serait de l'orgueil. Et on a dit tout à l'heure que l'orgueil, eh bien, il repousse la lumière de Dieu. Donc, je suis obligé de comprendre que ma façon de voir à moi, elle n'est que fractale. Et je dois la compléter par ta façon de voir à toi. J'espère que c'est compliqué, mais j'espère que c'est simple, la manière dont je vous l'explique, pour que les choses ne fassent pas d'amalgame. Je répète et je conclue, je dois me battre, ce qu'on appelle Milchamta Shel Torah. Je dois me battre pour ma façon de voir, pour la protéger. Je ne dois pas laisser aller et dire, bon, d'accord, je fais un compromis. Ça n'existe pas.
C'est la réalisation.
Exactement. Je me réalise complètement par mon prisme à toi, à moi. Toi, tu te réalises par ton prisme à toi complètement et tu restes fidèle à ta façon de voir, mais on se complète tous les deux. Et c'est entre tous les deux que va passer le ratson, la volonté de Dieu. Écoutez bien, c'est ni chez toi, ni chez moi, ni par toi, ni par moi. Entre les deux, il y a un certain espace secret qui nous réunit tous les deux, et c'est dans cet espace secret que se diffuse la volonté de Dieu. Ish et Isha, Shezachu, Shrina Benehem. Comme un homme et une femme qui ont la capacité de comprendre ce qu'ils sont, vous comprenez que la même chose dans le couple, je ne dois pas m'effacer en tant qu'homme dans mon couple, et ma femme ne doit pas s'effacer en tant que femme. Sinon, 1 plus 1 égale 1. Et ça, c'est la mort de l'un d'entre nous. Et 1 plus 1 égale 2, ça ne suffit pas. 1 plus 1 égale quelque chose qui est autre chose, c'est le 3. C'est le divin qui nous traverse. Et pour ça que c'est très précis, Shrina Benehem, lo etzlo velo etzla, Benehem. La Shrina n'est pas chez lui, ni chez elle. Elle est entre les deux, dans la tension, dans cet espace, entre les deux êtres. Conclusion.
Ah, je voudrais juste poser une question ici, s'il vous plaît. Cette manière d'étudier la Torah signifie-t-elle que cela demande à chacun de développer parmi les qualités qui sont nécessaires pour étudier la Torah aussi la qualité de savoir que le point de vue de l'autre, donc une autre manière d'étudier la Torah, complète la sienne, complète la mienne.
Tout à fait.
Cette capacité-là qui se développe dans l'étude, qui accepte cette dynamique, correspond à une mida, n'est-ce pas?
Tout à fait. On appelle la mida de Tiferet. On appelle ça cette mida de Tiferet, de l'équilibre.
Et lorsqu'on se retrouve à inscrire l'étude dans la vie de tous les jours, à le vivre, et on se confronte à la halakha.
D'accord.
Et quelle est à ce moment-là la relation entre la mida qui relève de la halakha et la tiferet?
Eh bien, la halakha, en fait, c'est une manière de voir les choses qui correspond au monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais faites attention, même ceux qui étaient contre cette façon de fixer la halakha, Est-ce que leurs paroles sont retenues dans la Gemara? Oui.
Oui. Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas arrêté de penser comme il pensait pour autant, même si la halakha n'était pas comme lui. Autrement dit, il doit respecter sa manière de voir et d'accepter finalement que la halakha, pour l'instant, elle est comme ça, parce que le monde d'aujourd'hui ne peut pas autrement que comme ça. La preuve, c'est que pendant une période de 6000 ans, la halakha, un peu moins quand même, est comme Beth Hillel, et qu'à la fin des temps, au moment de la révélation messianique, la halakha sera comme Beth Shammai. Alors quoi, Beth Hillel, ils se sont trompés, ou Beth Shammai, ils se sont trompés? Non. Elou ve elou divrei Elohim chayim. Ceux-là et ceux-là, ce sont des paroles d'un seul Dieu vivant. Mais aujourd'hui, le monde ne peut pas vivre selon cette manière d'être. Et donc, on va fixer la halakha de cette manière-là, et pas autrement. Ça ne veut surtout pas dire que quelqu'un s'est trompé. La preuve, on va garder la machloket. D'ailleurs, dans Pirkei Avot, que vous étudiez avec le Rav Bochko, Shlita, on dit que, en réalité, quelle est la machloket chez Mitkayemet? Machloket Hillel veShammai atida leitkayem. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est atida leitkayem? La machloket. Non, la machloket. Machloket chez atida leitkayem. Ça veut dire que la machloket, elle est bonne. Il faut qu'elle continue à être. C'est ce qu'on appelle une machloket leshem shamayim atida leitkayem. Mais si la machloket n'est pas pour un seul Dieu, le seul Dieu leshem shamayim, eh bien c'est une machloket qui n'existe pas. Ça veut dire, soi-disant, on a fait la paix, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez compris, saisi la nuance que je viens de vous dire. C'est-à-dire que entre toi et moi, la machloket doit rester à vie. C'est extraordinaire. Il faut qu'il reste à vie. Parce que tous les deux ont fait venir Shem Shamayim. Vous avez compris?
Est-ce que ça veut dire, ensuite, en prolongeant et en faisant le lien avec la période de l'Homère, que ce travail de Sfirat HaOmer permet, s'il est fait, de développer en chacun la capacité à l'harmonie, à harmoniser les midot, de manière à ce que entre Tifer et Malchut, il y ait harmonie aussi.
Tout à fait, puisque c'est une conjugaison de toutes les sphirot. Et dans chaque semaine, il y a toutes les sphirot de la sphira en question qui, elle, est la maîtresse de maison. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a toujours une maîtresse de maison. Par exemple, là, on a commencé la quatrième semaine du Homer. On est d'accord? Donc, au niveau des Kélim, c'est quoi la quatrième semaine du Homer?
Netzach.
Chesed Gvura Tiferet Netzach. Donc, si la sphère qui est la maîtresse de toute la semaine, c'est le Netzach, mais le premier jour de cette semaine, c'est le Chesed du Netzach. Le deuxième jour, c'est la Gvura du Netzach. Vous voyez qu'on est obligé, on oblige toutes les sphirot à conjuguer, à avoir une vie conjugale, à se marier entre elles. Et quand tu commences à être raffiné dans toutes les sphirot et que tu arrives à contenir toutes les sphirot, mais tu arrives à ce sommet qui s'appelle Chag HaShavuot. Chag HaShavuot, c'est la fête de qui? Du roi David. David HaMelech a quitté ce monde, Chag HaShavuot. Et il est arrivé dans ce monde, Chag HaShavuot, c'est-à-dire qu'il représente Malchut, David HaMelech. Donc David HaMelech, c'est qui? Et c'est celui qui sait recevoir, en fait. D'ailleurs, toute sa vie, c'est une grande réception. Vous savez pourquoi? puisque David HaMelech n'a vécu que 70 ans, qui appartenait à qui ? À Adam Arishon. Donc en réalité, David HaMelech, c'est le clic qui boule par excellence. C'est l'ustensile de réception. Il est conscient à chaque instant que sa vie, c'est en réalité quelqu'un d'autre qui me l'a donné. Ça, c'est le plus grand des secrets qui peut après te donner la possibilité de grandir dans ta Torah. Et donc, moralité, vous avez bien compris qu'il s'agit là d'une conjugaison entre toutes les sphirotes, et je résume, « Amashper she'aya be'olam anekudim » Donc cette crise, cette brisure qui a eu lieu dans le monde des points, je vous rappelle, les points, c'est chacun penser à lui. Eh bien, cette crise, malheureusement, elle a holid et metziuta klipot, elle a engendré une existence qu'on appelle des klipotes. C'est quoi les klipotes? Mais ce sont des écorces. Qu'est-ce que ça veut dire des exocorces? Eh bien, quand je veux manger une orange, je ne vois pas l'orange, je vois une écorce. Je vois klipat à ta pouze. C'est bien ou c'est mauvais? Ça dépend. J'ai besoin de clipat à ta pouze pour protéger à un moment donné l'orange, pour ne pas que des forces viennent rentrer et salir cette orange. D'un autre côté, au moment où j'ai besoin de consommer l'orange, je dois éplucher l'écorce. Et donc, moralité, il y a aussi une nécessité. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu s'est trompé, qu'il a créé une créature qui s'appelle Nekudim, et tous les points se sont bagarrés entre eux, et chacun a dit, je veux être le roi, je veux être le roi, et le bon Dieu, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour les créer? Pas du tout. Ça aussi, ça fait partie du plan. Pour qu'il y ait brisure, pour qu'il y ait écorce, donc clipote. Et regardez maintenant, Asher be'emtsa utan, car grâce à ces clipotes, atid le'ofia hakoach hanachutz leipara min ha'resha'im. C'est la même force nécessaire pour, entre guillemets, punir les méchants. Kol echad ve'echad lefi psha'av ou ma'alalav. Donc, chacun selon ses actions. D'un autre côté, Otan Klipot, les mêmes Klipot dont je viens de parler, Achrayot Lemtziut Musagei Hasachar Ve'aronesh. C'est grâce à elles que vous avez ce qu'on appelle la récompense et la punition. Autrement dit, la Bechira Achofshit Bichlal. C'est le choix que nous avons dans ce monde. Pourquoi nous avons un choix dans ce monde? Parce qu'il y a des écorces. Je vais le dire autrement. Grâce aux écorces qui me cachent la lumière divine tellement claire, tellement grande, bien grâce à ça, que je ne vois pas clair, je peux choisir. Car si tout était clair, je n'aurais pas de choix. Donc Dieu a créé un système pour me cacher la clarté de son existence, pour me donner la possibilité de choisir. Vous voyez que c'est extraordinaire. Donc il y a ici, exactement, c'est quelque chose qui fait partie de ma recherche, de mon retour, de ma teshuva. D'ailleurs, il n'y a aucune mitzvah si vous n'avez pas le choix de la faire ou de ne pas la faire. Ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Si tu appliques une mitzvah, si tu réalises une mitzvah, c'est que tu as le choix de ne pas la faire. Mais toi, tu as choisi de la faire. Donc, etzema perud ben anekudo, le fait même qu'il y a eu séparation entre tous les points dans le monde qu'on a appelé Nekudim, c'est là-bas qu'est née la racine même de toutes les écorces dans ce monde, c'est-à-dire de tout ce qui cache la vérité absolue de l'Éternel. C'est là-bas que ça a commencé. C'est là-bas la source. Donc, Yachadimzot, avec tout ça, Achelekatov, il y a eu quand même une partie de bien dans tous ces points lumineux. Il n'y avait pas que du mal. Eh bien, les parties du bien qui étaient dans les Nekudot, dans ces fameux points, Nishmar, cette partie a été gardée, les Tzorech Olam Atikun, ou Olam Ha'atzilut. C'est avec ces valeurs-là de bien, on n'a pris que le bien et on a fabriqué le Olam Ha'atzilut, le monde de l'émanation, le premier monde. Et là, on est en train de se rapprocher petit à petit de la création du monde. Je vous rappelle, on est encore avant la création du monde. Donc tout ceci va donner possibilité d'avoir déjà un monde corrigé, entre guillemets, par l'Éternel lui-même. Quel ?
Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il n'y a pas de dialectique hégélien ? Il faut de l'altérité. Est-ce que c'est une question ? Est-ce qu'il n'y a pas de dialectique hégélienne, je crois que vous dire.
Il n'y a pas de dialectique en réalité hégélienne. Quel ? Si j'ai bien compris ce que la personne a voulu dire, c'est en réalité, il y a une thèse, une antithèse, et la synthèse prend en compte les deux. Donc il y a en réalité la prise en compte de l'altérité, donc de l'autre, de mon alter ego. Je ne peux pas atteindre l'unité de Dieu si ce n'est que par le pluriel dans lequel je suis plongé, dès ma naissance. Nous sommes plongés dans une baignoire de pluriel, et c'est à partir de ce pluriel que nous devons et que nous pouvons retrouver la vérité de l'unité.
Moi, j'ai une question à moi. Tout à l'heure, vous avez parlé donc que l'Atid sera l'Alra comme Beit Shammai. Est-ce qu'il y a une source où c'est écrit ce que j'ai cherché? J'ai entendu souvent parler de ça, mais je n'ai jamais compris qu'il y avait une source qui parlait de ça.
C'est justement, puisque nous étudions la Kabbalah nous le dit, tout simplement parce que Beit Shammai, quelle était sa qualité? C'est qu'il était dans la midat du din, c'est-à-dire dans la vérité telle que Dieu la voulait au départ. Or, au moment de la création, il y a marqué que Dieu a créé le monde par cette qualité de din, mais que le monde ne pouvait pas pour l'instant exister dans cette mida de din. Donc qu'est-ce qu'il a fait le créateur? Ba veshitef midat arachamim. Donc à Kadosh Baruch Hu, il a rajouté des rachamim dans le din. Haïm ou viter à la din? Lo, chalila. Est-ce que Dieu a laissé tomber midat adin par laquelle il a créé le monde? Pas du tout. Il a juste rajouté quelque chose qui va nous aider à supporter le din. Qu'est-ce que c'est que cette chose qu'il a rajouté? Rachamim. Comment vous appelez ça, rachamim?
En français?
Oui.
Miséricorde.
Non, non, tout ça, ça ne veut rien dire. Dites à quelqu'un dans la rue la miséricorde, il va vous dire amen. Il ne va même pas savoir de quoi tu lui parles. Je veux une notion que vous sortiez avec elle dans la poche, que vous ayez quelque chose dans la poche. Qu'est-ce que Dieu a mis en place pour que le din soit respecté tout en ne mourant pas? Voilà, j'ai fait...
Le tifer est l'équilibre.
Le quoi?
Le tifer est l'équilibre.
Ça aussi, c'est encore des notions trop loin.
Les
trop loin.
La générosité.
Non.
À côté. La matrice, le temps. Hein. La matrice,
le temps.
C'est qui a dit le temps? Qui a dit le temps?
Le temps.
Pinchas, Yafemeod. C'est la notion de temps. C'est ça, Midat Arachamim. C'est-à-dire que même si quelqu'un a fait une faute et qu'il doit recevoir un rocher sur la tête, ça c'est Midat Adim. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va lui donner le temps. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce rocher? Il va le rentrer dans une machine, il va faire du sable, de tout le rocher. Et chaque jour, on va lui jeter un petit peu de sable. Est-ce qu'il a reçu le rocher sur la tête? Oui.
Mais
sous une forme de sable. C'est-à-dire, on a moulu le rocher. Vous avez compris? C'est incroyable. Et donc, la notion de rachamim, c'est une notion de temps. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et c'est cette notion de temps qu'Akadosh Baruch Hu a amené dans le monde pour nous permettre de ne pas brûler tout de suite quand on allume la lumière Shabbat. Sinon, si chacun aurait allumé une allumette, il serait brûlé sur le champ. Midat Adin. Donc, Midat Arachamim, on va le laisser réfléchir, prendre conscience, tout doucement faire teshuva. C'est ça, en réalité, le temps. C'est ça ce qu'on appelle Midat Arachamim. Ça vient de la racine Rechem,
Rechem,
de la maman, dans laquelle la matrice de la maman, le ventre de la maman, qui donne le temps au bébé de s'habituer au monde du temps, puisque lui, le bébé, il vient d'un monde où le temps n'existe pas. Et donc, comme il doit arriver dans le monde du temps, on va lui faire passer un stage dans Rechem, singulier de Rachamim.
J'ai une question.
Quelle?
Est-ce que c'est possible qu'on ne voit pas s'accomplir ce que vous venez d'expliquer à la fin de la vie et qu'on doit revenir dans un autre Gilgoul pour accomplir ceci?
Tout à fait, tout à fait, puisque nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont même pas vu se réaliser la promesse que Dieu a promis de leur donner la terre d'Israël. Donc, ça vient ou chez les enfants ou chez les arrière-petits-enfants, mais en réalité, c'est vous aussi, c'est la même chose, c'est votre retour à travers quelqu'un d'autre.
Et ça affecte la Bechira, ça?
Ça n'affecte pas la Bechira, au contraire. Ça veut dire que...
Si on meurt sans avoir vu s'accomplir
justement, c'est justement ce que Dieu dit à Moshe. J'ai promis à Abraham, Yitzhak, Yaakov, alors qu'ils n'ont rien vu de mes promesses, ils n'ont jamais remis en question ma vérité. C'est exactement ça qui a été dit à Moshe.
Merci.
Donc, il faut avoir confiance en Dieu et nos grands-parents qui n'ont pas vu la création de l'État d'Israël et que nous, on l'a vu et que nous, on est en train de la voir, eh bien, c'est exactement pareil. Est-ce qu'ils ont remis en question la vérité de Dieu qu'un jour il y aurait un État? Non. Tous les ans, ils disaient « Le Shana Abba Birushalayim ». Et aujourd'hui, on ne dit plus « Le Shana Abba Birushalayim », on dit « Birushalayim Abnouya ». Abnouya, ça veut dire qu'il y a déjà le Beth Amikdash.
Amen.
Est-ce que parce que le Beth Amikdash n'a pas été mis en place les deux semaines qui viennent de passer, je remets en cause? Non. « Bechol yom achakelo sheyavo ». Vous avez compris? C'est ça notre Emouna. Toda rabba, Be'ezrat Hashem, à la prochaine fois.
Toda rabba.
Toda rabba. Shalom, shalom.